Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bon réveil avec Europe 1. Il est 7h.
On privilégie maintenant les réunions à distance. Depuis un PC, on peut travailler en toute autonomie. Ouais.
La grève, cinquième jour. Il y a ceux qui parviennent toujours à s'organiser et ceux dont les trajets sont considérablement rallongés, voire annulé. On sera à Beauvais et à La Défense près de Paris dans ce journal.
Et dans l'éducation, qu'en sera-t-il aujourd'hui à la veille d'une nouvelle journée de manifestation? La réponse en direct d'une représentante des enseignants.
À suivre aussi des vendeurs en ligne qui fraudent massivement la TVA.
Jean-Luc Mélenchon face à la justice.
Et ce phénomène qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Depuis l'offensive turque en Syrie, les évasions se sont multipliées dans le camp d'Al-Hol. Une centaine de femmes djihadistes ont pu prendre la fuite.
Les passeurs rôdent en permanence. C'est vraiment facile pour les passeurs de faire sortir ces familles. Surtout si elles ont des dollars.
Europe 1 en Syrie, reportage dans ce journal. Des victoires à la chaîne et de 6 pour l'OM, tombeur de Bordeaux, 3-1 hier soir.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais. Déjà de grosses difficultés sur les routes en Ile-de-France. Près de 400 km de bouchons exceptionnels à cette heure-ci. Et pour cause, hein, après s'être organisé en fin de semaine dernière, vous êtes nombreux aujourd'hui à devoir retourner au bureau.
Et pour ça, certains tentent le train. 15 à 20% du trafic assuré seulement. Ça fait donc du monde en gare. Victor Dolande, vous êtes à Beauvais dans l'Oise, d'où partent chaque jour de nombreux travailleurs franciliens.
Oui, il faut 1h20 pour rallier la capitale et normalement 12 trains partent chaque matin. Aujourd'hui, il n'y en a que deux et le deuxième a déjà 20 minutes de retard. Forcément, il faut jouer des coudes pour monter dans un wagon. Ludovic n'a pas travaillé jeudi ni vendredi et ce matin, il sait déjà qu'il sera en retard.
Normalement, moi je commence à 7h, donc je ne serai jamais à 7h en chantier, je vais arriver 8h30-9h.
Votre employeur est conciliant ?
Bah, pour l'instant, il ne dit rien, mais bon, ça ne va pas durer. Si ça dure comme ça, ça ne va pas le faire non plus tout le temps. Quoi. Voilà, il va falloir que je prenne un hôtel sur Paris, c'est compliqué.
Ali, lui, s'est levé 2h plus tôt pour être sûr justement de ne pas être en retard, mais il le prend avec le sourire.
Je prends un train plus tôt et de la gare du Nord, je vais aller à pied jusqu'aux Galeries Lafayette.
Sacré marche aussi.
Ouais, mais c'est bien, ça me fait un petit entraînement. Après, c'est l'organisation avec les gens que j'emploie. Ça va pas être évident, je sais pas encore comment on va faire, mais on va s'adapter.
Avec la grève, l'organisation est évidemment chamboulée, mais ce qui frappe ici, c'est l'entraide. Les voyageurs échangent des conseils et s'organisent à 4 ou 5 pour faire du covoiturage dans les prochains jours, si la grève se poursuit.
Victor Dolande en direct de la gare de Beauvais pour Europe 1, la SNCF et la RATP qui, face à la crainte de gares bondées, ont appelé les usagers à limiter leurs déplacements.
Cinquième jour de grève, donc cela a-t-il déjà un impact sur l'activité économique du pays? Pour le savoir, nous sommes allés au cœur du réacteur, quartier de la Défense, à près de Paris. Reportage de Mathieu Bock pour Europe 1.
Pour l'instant, on voit au jour le jour. Patrick ne s'inquiète pas trop. Ce cadre informatique dans un groupe d'assurance est adapté. Il travaille normalement, du moins pour le moment.
Non, on n'a pas chamboulé ou adapté nos organisations ou nos agendas. Mais effectivement, les jours, on va être vigilant en fait, sur les évolutions de ce mouvement.
Joël et Sylvain sont commerciaux dans une grande banque. Eux non plus n'ont pas modifié leurs habitudes. Ils font tout par télétravail avec leurs collègues restés à la maison. Et grâce à la visioconférence, plus besoin de venir au bureau pour des réunions sans fin autour d'une table.
Que ce soit des réunions internes ou des réunions clients, on privilégie maintenant les réunions à distance. Depuis un PC, on a à la fois nos solutions de téléphonie ou de vidéo et on peut travailler en toute autonomie. Ouais.
Ça pourrait devenir compliqué si ça durait, on va dire, plus de 2 semaines, 3 semaines, puisque ça veut dire qu'il faudrait encore reporter des rendez-vous. Et après, il y aurait une file d'attente qui serait assez lourde.
Et dans leur entreprise, Joël et Sylvain se sentaient bien seuls ce jour-là. Ils espèrent qu'aujourd'hui, lundi, leurs collègues auront eu le temps de s'organiser pour venir les rejoindre.
Eux aussi espèrent un retour à la normale. On parle là des parents d'élèves. Bonjour Françoise Popineau.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole du SNUIPP-FSU qui représente les enseignants du premier degré. Jeudi dernier, le mouvement avait été très suivi. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ?
Alors, il faut savoir que nous sommes sur un plan d'action qui s'inscrit évidemment dans la durée. Donc, il y a des moments d'intensité variable. Donc, il y a des temps forts, vous l'avez indiqué, jeudi en était un. Demain en sera un, donc mardi 10. Et entre-temps, des collègues, pour ce qui concerne le premier degré, se mettent en grève chaque jour de manière circulaire, on va dire, hein, comme une grève perlée. Donc, ce ne sont pas tous les enseignants qui se mettent en grève les autres jours. ça permet effectivement de marquer le paysage en indiquant qu'effectivement le mouvement s'inscrit sur un temps long.
Donc être présent dans la contestation de façon perlée, circulaire comme vous le dites, mais ça veut dire concrètement que vous n'avez pas de chiffres et de prévisions à communiquer ce matin aux parents.
Non, nous n'avons aucun chiffre à communiquer, mais ce que nous savons, c'est que les enseignants du premier degré ont toujours prévenu les familles pour pouvoir permettre à celles-ci de s'organiser, bien évidemment.
Merci Françoise Popineau, porte-parole du SNUIPP-FSU, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Cette réforme des retraites qu'Edouard Philippe présentera mercredi, ça paraît loin mercredi quand on est sur une journée qui démarre comme celle-ci. Mercredi, dernière réunion avec les syndicats cet après-midi pour dévoiler les conclusions de la concertation.
Et il est au cœur de cette réforme, Jean-Paul Delevoye, épinglé ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France pour ne pas avoir mentionné dans sa déclaration d'intérêt ses fonctions d'administrateur de l'Institut de formation de la profession de l'assurance, secteur très intéressé par la réforme. Un oubli assure l'intéressé. Europe 1, il est 7h06.
À l'approche de Noël, le commerce en ligne à nouveau pointé du doigt avec cette gigantesque fraude que l'on découvre ce matin.
Révélation du quotidien Les Échos, dont vous êtes le directeur de la rédaction, Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Marion.
Vous levez le voile sur une fraude massive à la TVA.
Oui, l'enquête que nous révélons ce matin provient de l'inspection générale des finances et sa conclusion est absolument édifiante. 98% des vendeurs, je dis bien 98%, enregistrés sur les places de marché de sites comme Amazon ou Cdiscount ne sont pas immatriculés à la TVA en France. Sur près de 25 000 vendeurs contrôlés par Bercy et enregistrés sur ces sites marchands, seuls 538 étaient en règle. Beaucoup de ces vendeurs, il faut le dire, sont basés en Chine. Ils ne déclarent donc aucune TVA. Et au fond, les consommateurs y trouvent leur compte. Quand on achète un produit sur une place de marché en ligne, on se demande rarement qui est le vendeur. On fait confiance à l'intermédiaire, Amazon par exemple, pour être livré.
Oui, et puis ce qu'on regarde, c'est surtout le prix.
Ben exactement. Et le rapport de Bercy pointe bien le problème. Ces vendeurs qui fraudent la TVA bénéficient, je cite, d'un avantage prix de 20% par rapport aux sociétés qui remplissent leurs obligations légales, créant une distorsion de concurrence majeure. Le rapport ajoute que les montants en jeu sont considérables. Alors combien ? Le fisc ne donne pas d'estimation, mais enfin quand on sait que le marché français de l'e-commerce frôle les 100 milliards d'euros, on imagine l'ampleur de la fraude. J'ajoute qu'il y a plus de 100 000 vendeurs en ligne enregistrés sur ces plateformes en France. Beaucoup sont donc basés à l'étranger. Ils ne déclarent rien. Il est temps de faire un grand ménage, car en attendant, ce sont les commerçants honnêtes et les contribuables qui sont lésés et lourdement.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Je parlerai de vos informations à mon invité à 7h40, Jacques Baudoz, qui est président de l'enseigne Jouet Club. On va faire le bilan un peu de ce week-end, des 4 premiers jours de grève. La concurrence du commerce en ligne, pour le coup, ça doit lui parler, ces questions de concurrence déloyale. Merci Nicolas Barré.
Et c'était l'éclairage éco avec Région Job et Paris Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi sur Région Job et Paris Job. Sera-t-il condamné ? Jean-Luc Mélenchon le saura ce matin. En octobre 2018, le leader de la France Insoumise s'était emporté lors d'une perquisition au siège du parti, bousculant notamment un représentant du parquet et un policier. 3 mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende avait été requis à son encontre, notamment pour rébellion. Alors comment attend-il ce jugement ? Il l'a dit à Nathalie Chevance pour Europe 1.
Bah là, je suis dans l'état d'esprit de la lutte, vous savez, tout ça, bon, c'est quand même l'essentiel de ma vie. D'ailleurs, sans doute, si je dois être condamné, ce sera pour ça. Puis je serai le premier rebelle officiel du pays, puisque je ne serai ni condamné pour outrage, d'habitude les gilets jaunes sont condamnés pour outrage, ni pour obstruction, puisque je n'ai rien obstrué, je vais être condamné pour rébellion, peut-être, hein, parce que peut-être que je vais être relaxé, pour rébellion et appel à la rébellion, dites voir, c'est une condamnation qui vaut décoration, ça. Hein. Voilà, j'essaye de le prendre avec... avec bonhomie, parce que voulez-vous que je vous dise, c'est pas plaisant, hein, c'est plaisant pour personne.
Jean-Luc Mélenchon avec Nathalie Chevance pour Europe 1. Lui aussi sera fixé aujourd'hui à 2 jours de son procès en appel pour fraude fiscale. Patrick Balkany saura cet après-midi s'il est ou pas libéré.
Europe 1. Ce sont d'inquiétantes évasions sur lesquelles Europe 1 lève le voile ce matin. Celles de femmes djihadistes qui fuient en nombre le camp d'Alol en Syrie. Elles veulent reconstruire le califat de l'État islamique. Notre envoyé spécial les a rencontrées. Nous sommes en Syrie dans un tout petit instant.
Il est 7h10 sur Europe 1, la suite du journal Marion Calais, Mathieu Béliard.
Nous sommes donc ce matin en Syrie, dans le nord du pays. Tout juste 2 mois après le lancement de l'offensive turque dans la région, Europe 1 a pu se rendre dans le camp d'Alol, où sont détenues près de 70 000 personnes.
Majoritairement les familles des combattants de l'État islamique. Et ces femmes djihadistes, loin d'avoir renié le drapeau noir de l'organisation terroriste, tentent désormais de fuir le camp. Des tentatives d'évasion quotidiennes, certaines couronnées de succès. Gwendoline Debono est l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Syrie.
La clôture grillagée qui entoure l'immense Scandal Hall sur des kilomètres n'est pas un obstacle bien difficile à franchir. En à peine 2 mois, 700 femmes djihadistes ont tenté de s'en évader, le plus souvent des Syriennes et des Irakiennes. 100 y est parvenue, les autres ont été arrêtées dans ce bout de désert rocailleux où les cellules de l'État islamique sont actives. Un membre de l'administration du camp le reconnaît. Avec l'hiver qui approche, nous nous sentons dépassés.
Nous vivons dans l'inquiétude ici au camp. Les passeurs rôdent en permanence. Les familles de l'État islamique exploitent les éléments comme la pluie ou le brouillard. Lorsqu'elles s'échappent, elles vont près du camp. Les passeurs les attendent à 2 ou 3 km. L'intervention turque a créé le chaos ici. Et les checkpoints ne peuvent pas contrôler tout le monde. Demandez à chaque fois les papiers dans ces périodes de chaos. C'est vraiment facile pour les passeurs de faire sortir ces familles, surtout si elles ont des dollars.
Dans les allées du camp, les fils des écouteurs sortent des niqabs noirs. Les portables sont dans toutes les mains. Les numéros de passeurs s'échangent. Cette Irakienne connaît la grille tarifaire par cœur. Ses voisins ont fait le voyage.
C'était un groupe de 8. Ils ont retrouvé le passeur au niveau des barrières. Certains d'entre eux sont allés en Irak, d'autres en Syrie. Si c'est pour la Syrie, c'est 1 500 $. Si vous voulez aller en Irak, à Erbil ou bien en Turquie, par contre, c'est 2 500 $. Énormément de gens font ça. Les personnes que je connais sont arrivées à Erbil. Elles sont bien, tranquilles, dans une maison.
Une femme, index levé, interrompt la conversation.
L'État islamique restera et nous ferons du Scandal Hall l'un de ses gouvernorats.
Ici, difficile de terminer une interview sans qu'une djihadiste ne vienne proclamer le slogan de l'État islamique. Pour ces femmes, partir du camp, c'est aussi partir en mission. Toutes veulent mener la bataille idéologique dans la région.
Je veux aller avec ma famille en Turquie. La Turquie, c'est mon rêve pour faire en sorte que l'État islamique revienne. Si ce n'est pas possible, j'irai en Irak. On veut que l'État islamique revienne avec l'aide de Dieu parce qu'il nous a rendus fiers.
La semaine dernière, des ressortissantes russes, ouzbèques et syriennes en fuite ont été arrêtées dans un village. Leur destination, la frontière turque, à 2 heures de route. Sur les téléphones confisqués, des messages audio entre passeurs et djihadistes. Si Dieu le veut, dit cette femme, je partirai demain.
Une 100 d'évasions réussies, donc on retiendra ce chiffre de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie, Gwendoline de Bono. Et puis une éruption volcanique cette nuit en Nouvelle-Zélande sur un volcan très prisé des touristes. Il y avait une 50 de personnes sur place au moment de l'éruption. Il y a au moins une personne décédée.
Votre journal se poursuit dans un tout petit instant avec l'état de grâce marseillais. Nouvelle victoire de l'OM hier soir, la 6e d'affilée.
7h15 sur Europe 1, la suite du journal. Marion Calais, Mathieu Béliard. Ils ont donc empêché le PSG d'être sacré champion d'automne dès hier. Les Marseillais
tombent. C'est vrai que les Parisiens y tiennent à ce titre.
Ouais, ils y tiennent. Bon, cela dit, ce sera sans doute fait d'ici les 2 dernières journées avant la trêve. Les Marseillais tombèrent de Bordeaux hier soir en clôture de la 17e journée de la Ligue 1.
Score final 3-1, l'OM consolide donc sa 2e place pour Europe 1, Stéphane Frangy.
La passe de 6 pour l'OM, 6 victoires de rang et encore un concurrent direct écarté, ce que les Olympiens n'arrivaient pas à accomplir la saison dernière encore, et comme un état de grâce pour André Villas-Boas et ses hommes.
On se trouve bien sur l'aspect mental, avec des joueurs qui défendent et qui donnent tous pour l'équipe. Quand on est bien avec cet état d'esprit, il reste un amour avec cette équipe, et c'est comme un port pour les adversaires. On doit profiter maintenant de ce moment-là.
Et symbole de cette embellie, Jordan Amavi, hier encore conspué, aujourd'hui applaudi. Et buteur.
Ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien. En plus, stade plein comme ça. Après, voilà, c'est dans la situation dans laquelle j'étais aujourd'hui, marqué à ce moment-là. Donc, ça fait énormément de bien. Comme j'ai toujours dit, je m'accroche, je lâche pas et je suis récompensé.
Et les Olympiens qui se rapprochent de leur record personnel de 8 victoires d'affilée et qu'ils n'ont réussi que 3 fois durant toute leur histoire. La dernière, c'était en 2014 sous les ordres de Marcelo Bielsa. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Bon, et cette 17e journée de Ligue 1, dont on retiendra aussi hier la défaite de Saint-Etienne 3-1 contre Reims.
Merci Marion, c'était le journal de 7h, une nouvelle édition à 7h30 tout à l'heure avec Hélène Zélani.